Chapitre 9, la journée du 2 septembre, Maillard. Ce qu'avait prévu Danton arriva. À l'ouverture de la séance, Thuriot fit à l'Assemblée la proposition que le ministre de la Justice avait formulée la veille. L'Assemblée ne comprit pas. Au lieu de voter à 9h du matin, elle discuta, traîna en longueur, vota à 1h de l'après-midi. Il était trop tard. Ces 4 heures retardèrent d'un siècle les libertés de l'Europe. Tallien fut plus adroit. Chargé par la commune de donner l'ordre au ministre de la Justice de se rendre à la municipalité, il écrivit « Monsieur le ministre, au reçu de la présente, vous vous rendrez à l'hôtel de ville ». Seulement, il se trompa d'adresse. Au lieu de mettre « au ministère de la Justice », il mit « au ministère de la guerre ». On attendait Danton, ce fut Servant qui se présenta, tout embarrassé, en demandant ce qu'on lui voulait. On ne lui voulait absolument rien. Le quiproquo s'éclaircit, mais le tour était fait. Nous avons dit que l'Assemblée, en votant à 1h, avait voté trop tard. En effet, la commune, elle, qui ne traînait pas les choses en longueur, avait mis le temps à profit. Que voulait la commune? Elle voulait le massacre et la dictature. Voici comment elle procéda. Ainsi que l'avait dit Danton, les massacreurs n'étaient pas si nombreux qu'on le croyait. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, tandis que Gilbert essayait inutilement de tirer André de l'abbaye, Marat avait lâché ses aboyeurs dans les clubs et dans les sections. Si enragés qu'ils fussent, ils avaient produit peu d'effet dans les clubs, et sur 48 sections, deux seulement, la section poissonnière et celle du Luxembourg, avaient voté le massacre. Quant à la dictature, la commune sentait bien qu'elle ne pouvait s'en emparer qu'à l'aide de ses trois noms, Marat, Robespierre, Danton. Voilà pourquoi elle avait fait donner à Danton l'ordre de venir à la municipalité. Nous avons vu que Danton avait prévu le coup, Danton ne reçut point la lettre et par conséquent ne vint point. S'il l'eût reçue, si l'erreur de Tallien n'eût point fait porter la lettre au ministère de la guerre quand elle devait être portée au ministère de la justice, peut-être Danton n'eût-il point osé obéir. En son absence, force fut à la commune de prendre un parti. Elle décida de nommer un comité de surveillance. Seulement, le comité de surveillance ne pouvait être nommé en dehors des membres de la commune. Il s'agissait cependant de faire entrer Marat dans ce comité du massacre. C'était le vrai nom qui lui appartenait. Mais comment faire? Marat n'était point membre de la commune. Ce fut Panis qui se chargea de l'affaire. Par son dieu Robespierre, par son beau-frère Santerre, Panis pesait d'un tel poids sur la municipalité. On comprend bien que Panis, ex-procureur, esprit faux et dur, pauvre petit auteur de quelques vers ridicules, ne pouvait avoir par lui-même aucune influence. Mais par Robespierre et Santerre, disons-nous, il pesait d'un tel poids sur la municipalité qu'il fut autorisé à choisir 3 membres qui complétassent le comité de surveillance. Panis n'osa exercer seul cet étrange pouvoir. Il s'adjoignit 3 de ses collègues, Sergent, Duplain, Jourdeuil. Ceux-ci, de leur côté, s'adjoignirent 5 personnes, Delforgue, L'Enfant, Gouverneur, Leclerc et Durfort. L'acte original porte les 4 signatures de Panis, Sergent, Duplain et Jourdeuil, mais à la marge on trouve un autre nom paraphé par un seul des 4 signataires, paraphé d'une manière confuse où cependant on croit reconnaître le paraphe de Panis. Ce nom, c'était le nom de Marat, qui n'avait pas le droit d'être de ce comité, n'étant pas membre de la commune. Avec ce nom, le meurtre se trouva intronisé. Voyons-le s'étendre dans l'effroyable développement de sa toute-puissance. Nous avons dit que la commune n'avait pas fait comme l'Assemblée, qu'elle n'avait pas traîné en longueur. À 10h, le comité de surveillance était établi et il avait donné son premier ordre. Ce premier ordre avait pour but de faire transporter de la mairie où siégeait le comité. La mairie était alors où est aujourd'hui la préfecture de police. Ce premier ordre avait pour but, disons-nous, de faire transporter de la mairie à l'abbaye 24 prisonniers. De ces 24 prisonniers, 8 ou 9 étaient des prêtres, c'est-à-dire que 8 ou 9 portaient l'habit le plus exécré, le plus haï de tous, l'habit des hommes qui avaient organisé la guerre civile dans la Vendée et dans le Midi, l'habit ecclésiastique. On les fit prendre dans leur prison par des fédérés de Marseille et d'Avignon, on fit venir 4 fiacres, on fit monter 6 des détenus dans chaque fiacre et l'on partit. Le signal du départ avait été donné par le 3e coup du canon d'alarme. L'intention de la commune était facile à comprendre. Cette lente et funèbre procession exalterait la colère du peuple. Il était probable que, soit sur la route, soit à la porte de l'abbaye, les fiacres seraient arrêtés et les prisonniers égorgés. Alors il n'y aurait plus qu'à laisser le massacre suivre son cours. Commencé sur la route ou à la porte de la prison, il en franchirait facilement le seuil. Ce fut au moment où les fiacres sortaient de la mairie que Danton prit sur lui d'entrer à l'assemblée. La proposition faite par Thuriot était devenue inutile. Il était trop tard, nous l'avons dit, pour appliquer à la commune la décision qui venait d'être prise. Restait la dictature. Danton monta à la tribune. Roland s'était trouvé trop honnête homme pour accompagner son collègue. On chercha des yeux Roland. Roland n'était point là. On voyait bien la force, mais on demandait inutilement la moralité. Manuel venait d'annoncer à la commune le danger de Verdun. Il avait proposé que, le soir même, les citoyens enrôlés campassent au Champ de Mars, de façon à pouvoir partir le lendemain au point du jour pour marcher à l'ennemi. La proposition de Manuel avait été accueillie. Un autre membre avait proposé, vu l'urgence du danger, de tirer le canon d'alarme, de sonner le tocsin, de battre la générale. Cette seconde proposition, mise aux voix, avait été accueillie comme la première. C'était une mesure néfaste, meurtrière, terrible dans les circonstances où l'on se trouvait. Le tambour, la cloche, le canon ont des retentissements sombres, des vibrations funèbres dans les cœurs les plus calmes. À plus forte raison devait-il en avoir dans tous ces cœurs déjà si violemment agités. Tout cela du reste était calculé. Au premier coup de canon, on devait pendre Monsieur de Beaucire. Annonçons tout de suite avec la tristesse qui s'attache à la perte d'un si intéressant personnage qu'au premier coup de canon, M. de Beaucire fut en effet pendu. Au troisième coup de canon, les voitures dont nous avons parlé devaient partir de la préfecture de police. Or le canon tirait de 10 minutes en 10 minutes. Ceux qui venaient de voir pendre M. de Beaucire étaient donc en mesure d'arriver à temps pour voir passer les prisonniers et prendre part à leur égorgement. Danton avait été mis au courant de tout ce qui se passait à la commune par Tallien. Il savait donc le danger de Verdun, il savait donc la décision du campement au Champ de Mars, il savait donc que le canon d'alarme allait être tiré, le tocsin sonné, la générale battue. Il prit, pour donner la réplique à Lacroix, qui, on se le rappelle, devait demander la dictature, il prit le prétexte du danger de la patrie, et proposa de voter que quiconque refuserait de servir de sa personne ou rendrait ses armes serait puni de mort. Puis, pour qu'on ne se méprît point à ses intentions, pour qu'on ne confondît point ses projets avec ceux de la commune, « Le tocsin qu'on va sonner, dit-il, n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. » Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. » Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces paroles. Alors Lacroix se leva et demanda à son tour qu'on punît de mort ceux qui, directement ou indirectement, refuseraient d'exécuter ou entraveraient, de quelque manière que ce fût, les ordres donnés et les mesures prises par le pouvoir exécutif. L'Assemblée comprit parfaitement cette fois ce qu'on lui demandait de voter, c'était la dictature. Elle approuva en apparence, mais nomma une commission de Girondins pour rédiger le décret. Les Girondins, par malheur, comme Roland, étaient de trop honnêtes hommes pour avoir confiance en Danton. La discussion traîna jusqu'à 6 heures du soir. Danton s'impatienta, il voulait le bien et on le forçait de laisser faire le mal. Il dit un mot tout bas à Thuriot et sortit. Qu'avait-il dit tout bas? Le lieu où l'on pourrait le retrouver dans le cas où l'Assemblée lui confierait le pouvoir. Où pourrait-on le retrouver? Au Champ de Mars, au milieu des volontaires. Quelle était son intention, dans le cas où le pouvoir lui serait confié, de se faire reconnaître dictateur par cette masse d'hommes armés, non pas pour le massacre, mais pour la guerre, de rentrer à Paris avec eux et d'emporter, comme un immense filet, les égorgeurs à la frontière. Il attendit jusqu'à 5 heures du soir. Personne ne vint. Qu'arrivait-il pendant ce temps des prisonniers que l'on conduisait à l'abbaye? Suivons-les, ils vont lentement et facilement, nous les rejoindrons. D'abord, les fiacres dans lesquels ils étaient enfermés les protégèrent. L'instinct du danger qu'ils couraient fit que chacun se rejeta au fond de la voiture, se montrant le moins possible aux portières. Mais ceux qui étaient chargés de les conduire les dénonçaient eux-mêmes. La colère du peuple ne montait pas assez vite. Ils la fouettaient de leurs paroles. « Tenez, disait-il aux passants qui s'arrêtaient, les voilà, les traîtres, les voilà, les complices des Prussiens, les voilà ceux qui livrent vos villes, ceux qui égorgent vos femmes et vos enfants, si vous les laissez derrière vous quand vous marcherez à la frontière. » Et cependant, tout cela était impuissant, tant, comme l'avait dit Danton, les massacreurs étaient rares. On obtenait de la colère, des cris, des menaces, mais tout s'arrêtait là. Le cortège suivit la ligne des quais, le pont Neuf, la rue Dauphine. On n'avait pas pu lasser la patience des prisonniers, on n'avait pas pu pousser la main du peuple jusqu'au meurtre. On approchait de l'abbaye, on était au carrefour Bussy, il était temps d'aviser. Si on laissait les détenus rentrer en prison, si on les tuait une fois rentrés, il était évident que c'était un ordre réfléchi de la commune qui les tuait, et non l'indignation spontanée du peuple. La fortune vint en aide aux intentions mauvaises, aux projets sanglants. Au carrefour Bussy s'élevait un de ces théâtres où se faisaient les enrôlements volontaires. Il y avait encombrement, les fiacres furent forcés de s'arrêter. L'occasion était belle, si on la perdait, elle ne se présenterait plus. Un homme écarte l'escorte qui se laisse écarter. Il monte sur le marchepied de la première voiture, un sabre à la main, et plonge au hasard et à plusieurs reprises dans la voiture son sabre, qu'il en retire rouge de sang. Un des prisonniers avait une canne. Avec cette canne, il essaya de parer les coups. Il atteignit un des hommes de l'escorte au visage. « Ah, brigand ! » s'écria celui-ci. « Nous vous protégeons et vous nous frappez. À moi, camarade !» Une vingtaine d'hommes qui n'attendaient que cet appel s'élancèrent alors de la foule, armés de piques et de couteaux emmanchés à de longs bâtons. Ils dardèrent piques et couteaux par la portière, et l'on commença d'entendre des cris de douleur, et de voir le sang des victimes couler par le fond des voitures et laisser une trace dans la rue. Le sang appelle le sang. Le massacre était commencé, il allait durer 4 jours. Les prisonniers entassés à l'abbaye avaient, dès le matin, jugé à la figure de leur gardien et aux demi-mots échappés à ceux-ci que quelque chose de sombre se préparait. Un ordre de la commune avait, dans toutes les prisons, fait ce jour-là avancer l'heure du repas. Que voulait dire ce changement dans les habitudes de la geôle? Rien que de funeste, certainement. Les détenus attendaient donc avec anxiété. Vers 4 heures, le murmure lointain de la foule commença de venir battre, comme les premières vagues d'une marée qui monte, le pied des murailles de la prison. Quelques-uns, des fenêtres grillées de la tourelle qui donnait sur la rue Sainte-Marguerite, aperçurent les fiacres. Alors les hurlements de rage et de douleur entrèrent dans la prison par toutes les ouvertures, et le cri « Voilà les massacreurs !» se répandit dans les corridors, pénétra dans les chambres et jusqu'au plus profond des cachots. Puis on entendit un autre cri. « Les Suisses ! Les Suisses !» Il y avait 150 Suisses à l'abbaye. On avait eu grand-peine à les sauver de la colère du peuple le 10 août. La commune connaissait la haine du peuple pour les uniformes rouges. C'était donc une excellente manière de mettre le peuple en train et de lui faire commencer le massacre par les Suisses. On fut 2 heures à peu près à tuer ces 150 malheureux. Puis le dernier tué, et le dernier fut le major Reading, dont nous avons déjà prononcé le nom, on demanda « les prêtres ». Les prêtres répondirent qu'ils voulaient bien mourir, mais qu'ils désiraient se confesser. Ce désir fut satisfait, on leur accorda 2 heures de répit. À quoi ces 2 heures furent-elles employées? À former un tribunal. Qui forma ce tribunal? Qui le présida? Maillard. L'homme du 14 juillet, l'homme des 5 et 6 octobre, l'homme du 20 juin, l'homme du 10 août, devait être aussi l'homme du 2 septembre. Seulement, l'ancien huissier au Châtelet devait vouloir appliquer une forme, une allure solennelle, une apparence de légalité au massacre. Il voulait que les aristocrates fussent tués, mais il voulait qu'ils fussent tués légalement, tués sur un arrêt prononcé par le peuple, qu'il regardait comme le seul juge infaillible et qui seul aussi avait le droit d'acquitter. Avant que Maillard installât son tribunal, 200 personnes à peu près avaient déjà été massacrées. Une seule avait été sauvée, l'abbé Sicard. 2 autres personnes, franchissant une fenêtre à la faveur du tumulte, s'étaient trouvées au milieu du comité de la section qui tenait sa séance à l'abbaye. C'était le journaliste Parisot et l'intendant de la maison du roi La Chapelle. Les membres du comité avaient fait asseoir les fuyards à côté d'eux et les avaient sauvés de cette façon. Mais il ne fallait pas savoir gré aux massacreurs. Si ces 2 derniers leur avaient échappé, ce n'était pas leur faute. Nous avons dit qu'une des pièces curieuses à visiter aux archives de la police était la nomination de Marat au comité de surveillance. Une autre, non moins curieuse, est le registre de l'abbaye, encore tout taché aujourd'hui du sang qui rejaillissait jusque sur les membres du tribunal. Faites-vous montrer ce registre, vous qui êtes à la recherche des émouvants souvenirs, et vous verrez à chaque instant sur les marges, au-dessous de l'une ou l'autre de ces notes écrites d'une grande écriture, belle, pesée, parfaitement lisible, parfaitement calme, parfaitement exempte de troubles, de peur ou de remords, et vous verrez, disons-nous, au-dessous de l'une ou l'autre de ces notes, tué par jugement du peuple ou absous par le peuple, ce nom Maillard. La dernière note avait été répétée 43 fois. Maillard avait donc sauvé à l'abbaye la vie de 43 personnes. Au reste, pendant qu'il entre en fonction, vers 9 ou 10 heures du soir, suivons deux hommes qui sortent des Jacobins et qui s'acheminent vers la rue Sainte-Anne. C'est le grand prêtre et l'adepte, c'est le maître et le disciple, c'est Saint-Just et Robespierre. Saint-Just qui nous est apparu le soir de la réception de 3 nouveaux maçons à la loge de la rue Platrière. Saint-Just, au teint blafard et douteux, trop blanc pour un teint d'homme, trop pâle pour un teint de femme, à la cravate empesée et roide, élève d'un maître froid, sec et dur, plus dur, plus sec, plus froid que son maître. Pour le maître, il y a encore quelque émotion dans ces combats de la politique où l'homme heurte l'homme. La passion, la passion. Pour l'élève, ce qui se passe n'est qu'une partie d'échec sur une grande échelle où l'enjeu est la vie. Prenez garde qu'il ne gagne, vous qui jouez contre lui, car il sera inflexible, il ne fera point grâce aux perdants. Sans doute Robespierre avait ses raisons pour ne pas rentrer ce soir-là chez les Duplay. Il avait dit le matin qu'il irait probablement à la campagne. La petite chambre de l'hôtel Garni de Saint-Just, jeune homme, nous pourrions même dire enfant encore inconnu, lui semblait peut-être pour cette nuit terrible du 2 au 3 septembre plus sûre que la sienne. Tous deux y entrèrent vers 11 heures à peu près. Il est inutile de demander de quoi parlaient ces deux hommes, ils parlaient du massacre. Seulement l'un en parlait avec la sensiblerie d'un philosophe de l'école de Rousseau, l'autre avec la sécheresse d'un mathématicien de l'école de Condillac. Robespierre, comme le crocodile de la fable, pleurait parfois ceux qu'il condamnait. En entrant dans sa chambre, Saint-Just posa son chapeau sur une chaise, ôta sa cravate, mit bas son habit. « Que fais-tu ? » lui demanda Robespierre. Saint-Just le regarda d'un œil tellement étonné que Robespierre répéta « Je te demande ce que tu fais. »« Je me couche, pardieu !» répondit le jeune homme. « Et pourquoi faire ? Te couches-tu ? » « Mais pour faire ce que l'on fait dans un lit, pour dormir. »« Comment ? » s'écria Robespierre. « Tu songes à dormir par une pareille nuit ? » ?»« Pourquoi pas ? » Mais quand des milliers de victimes tombent ou vont tomber, quand cette nuit va être la dernière pour tant d'hommes qui respirent encore ce soir et qui auront cessé de vivre demain, tu songes à dormir ? Saint-Just demeura un instant pensif. Puis, comme si pendant ce court moment de silence il avait puisé au fond de son cœur une nouvelle conviction, « Oui, c'est vrai, dit-il, je sais cela, mais je sais aussi que c'est un mal nécessaire puisque toi-même l'as autorisé. » Suppose une fièvre jaune, suppose une peste, suppose un tremblement de terre, et il mourra autant d'hommes, plus peut-être qu'il n'en va mourir, et il n'en résultera aucun bien pour la société. Tandis que de la mort de nos ennemis résulte une sécurité pour nous. Je te conseille donc de rentrer chez toi, de te coucher comme je me couche, et de tâcher de dormir comme je vais dormir. » En disant ces mots, l'impassible et froid politique se mit au lit. « Adieu, dit-il, à demain !» Et il s'endormit. Son sommeil fut aussi long, aussi calme, aussi paisible, que si rien d'extraordinaire ne se fût passé dans Paris. Il s'était endormi vers 11h30 du soir, il se réveilla vers 6h du matin. Saint-Just vit comme une ombre entre le jour et lui. Il se retourna du côté de sa fenêtre et reconnut Robespierre. Il crut que, parti la veille au soir, Robespierre était déjà revenu. « Qui te ramène si matin ? » demanda-t-il. « Rien, dit Robespierre, je ne suis pas sorti. »« Comment tu n'es pas sorti ? » ?»« Non. »« Tu ne t'es pas couché ? » ?»« Non. »« Tu n'as pas dormi ? » ?»« Non. » »« Et où as-tu passé la nuit ? » ?»« Debout, là, le front collé à la vitre, écoutant les bruits de la rue. » Robespierre ne mentait pas. Soit doute, soit crainte, soit remords, il n'avait pas dormi une seconde. Quant à Saint-Just, le sommeil n'avait pas fait de différence pour lui entre cette nuit-là et les autres nuits. Au reste, il y avait de l'autre côté de la Seine, dans la cour même de l'abbaye, un homme qui n'avait pas plus dormi que Robespierre. Cet homme était appuyé à l'angle du dernier guichet donnant sur la cour et presque perdu dans la pénombre. Voici le spectacle que présentait l'intérieur de ce dernier guichet transformé en tribunal. Autour d'une vaste table chargée de sabres, d'épées, de pistolets et éclairée par deux lampes de cuivre dont la lumière était nécessaire même en plein jour, 12 hommes étaient assis. À leurs figures ternes, à leurs formes robustes, aux bonnets rouges qui les coiffaient, aux carmagnoles qui couvraient leurs épaules, on reconnaissait des hommes du peuple. Un 13e au milieu d'eux, avec l'habit noir râpé, le gilet blanc, la culotte courte, la figure solennelle et lugubre, la tête nue, les présidait. Celui-là, le seul peut-être qui sut lire et écrire, avait devant lui un livre d'écrou, du papier, des plumes et de l'encre. Ces hommes, c'étaient les juges de l'abbaye, juges terribles rendant des jugements sans appel, qui, à l'instant même, étaient mis à l'exécution par une 50aine de bourreaux armés de sabres, de couteaux, de piques, et qui attendaient dans la cour ruisselant de sang. Leur président, c'était l'huissier Maillard. Était-il venu là de lui-même? Y avait-il été envoyé par Danton, qui eût voulu faire aux autres prisons, c'est-à-dire au Carme, au Châtelet, à la force, ce que l'on fit à l'abbaye, sauver quelques personnes? Nul ne le sait. Au 4 septembre, Maillard disparaît. On ne le voit plus, on n'entend plus parler de lui, il est comme noyé, comme englouti dans le sang. En attendant, depuis la veille à 10 heures, il présidait le tribunal. Il était arrivé, il avait dressé cette table, il s'était fait apporter le livre d'écrou, il avait, au hasard et parmi les premiers venus, désigné 12 juges. Puis il s'était assis au milieu de la table. 6 de ses assesseurs s'étaient mis à sa droite, 6 à sa gauche, et le massacre avait continué, mais cette fois avec une espèce de régularité. On lisait le nom porté sur l'écrou, les guichetiers allaient chercher le prisonnier, Maillard faisait l'historique des causes de ses emprisonnements, le prisonnier paraissait, le président consultait de l'œil ses collègues, si le prisonnier était condamné, Maillard se contentait de dire « à la force ». Alors la porte extérieure s'ouvrait, et le condamné tombait sous les coups des massacreurs. Si, au contraire, le prisonnier était absous, le noir fantôme se levait, lui posait les mains sur la tête et disait « qu'on l'élargisse », et le prisonnier était sauvé. Au moment où Maillard s'était présenté à la porte de la prison, un homme s'était détaché de la muraille et avait été au-devant de lui. Au premier mot échangé entre eux, Maillard avait reconnu cet homme, et avait, en signe non pas peut-être de soumission, mais au moins de condescendance, incliné sa haute taille devant lui. Puis il l'avait fait entrer dans la prison, et la table dressée, le tribunal établi, il lui avait dit « Tenez-vous là, quand ce sera la personne à laquelle vous vous intéressez, faites-moi un signe ». L'homme s'était accoudé dans l'angle, et depuis la veille il était là, muet, immobile, attendant. Cet homme, c'était Gilbert. Il avait juré à André de ne point la laisser mourir et il essayait de tenir son serment. De 4 à 6 heures du matin, les massacreurs et les juges avaient pris un instant de repos. À 6 heures, ils avaient mangé. Pendant les 3 heures qu'avaient duré le sommeil et le repos, les tombereaux envoyés par la commune étaient venus et avaient enlevé les morts. Puis, comme il y avait 3 pouces de sang caillé dans la cour, comme les pieds glissaient dans le sang, comme c'eût été bien long de les laver, on avait apporté 100aine de bottes de paille qu'on avait éparpillées sur le pavé et que l'on avait recouvertes des habits des victimes et particulièrement de ceux des Suisses. Les vêtements et la paille absorbaient le sang. Mais tandis que les juges et les massacreurs dormaient, les prisonniers veillaient, secoués par la terreur. Cependant, quand les cris cessèrent, quand l'appel cessa, ils reprirent quelque espoir. Peut-être n'y avait-il qu'un certain nombre de condamnés désignés aux égorgeurs. Peut-être le massacre se bornerait-il aux Suisses et aux gardes du roi. Cet espoir fut de courte durée. Vers 6 heures 30 du matin, les cris et les appels recommencèrent. Alors un geôlier descendit et dit à Maillard que les prisonniers étaient prêts à mourir, mais demandaient à entendre la messe. Maillard haussa les épaules, néanmoins il accorda la demande. Il était d'ailleurs occupé à écouter les félicitations que lui adressait au nom de la commune, un envoyé de la commune, un homme mince de taille, à la figure douce, en habit puce, en petite perruque. Cet homme, c'était Billaud Varenne. « Brave citoyen, dit-il au massacreur, Vous venez de purger la société de grands coupables. La municipalité ne sait comment s'acquitter envers vous. Sans doute, les dépôts des morts devraient vous appartenir, mais cela ressemblerait à un vol. Comme indemnité de cette perte, je suis chargé d'offrir à chacun de vous 24 livres qui vont être payés sur le champ. » Et en effet, Biot-Varenne fit à l'instant même distribuer aux massacreurs le salaire de leur sanglante besogne. Voici ce qui était arrivé et ce qui expliquait cette gratification de la commune. Pendant la soirée du 2 septembre, quelques-uns de ceux qui tuaient, c'était le petit nombre, la majorité des massacreurs appartenant au petit commerce des environs, quelques-uns de ceux qui tuaient étaient sans bas et sans souliers. Aussi regardaient-ils avec envie les chaussures des aristocrates. Il en résulta qu'ils firent demander à la section de permettre de mettre à leurs pieds les souliers des morts. La section y consentit. Dès lors, Maillard s'aperçut qu'on se croyait dispensé de demander et qu'en conséquence on prenait non seulement les souliers et les bas, mais tout ce qu'il y avait de bon à prendre. Maillard trouva qu'on lui gâtait son massacre et il en référa à la commune. De là l'ambassade de Biot-Varenne et le religieux silence avec lequel il fut écouté. Pendant ce temps, les prisonniers entendaient la messe. Celui qui la disait était l'abbé L'Enfant, prédicateur du roi. Celui qui la servait était l'abbé de Rastignac, écrivain religieux. C'étaient deux vieillards à cheveux blancs, à figure vénérable, et dont la parole, prêchant d'une espèce de tribune, la résignation et la foi, eut une suprême et bienfaisante influence sur ces malheureux. Au moment où tous étaient à genoux, recevant la bénédiction de l'abbé L'Enfant, l'appel recommença. Le premier nom prononcé fut celui du consolateur. Le second prêtre resta et continua la funèbre exhortation. Puis il fut appelé à son tour et à son tour suivit ce qu'il appelait. Les prisonniers restèrent entre eux. Alors la conversation devint sombre, terrible, étrange. Ils discutaient sur la manière de recevoir la mort et sur les chances d'un supplice plus ou moins long. Les uns voulaient tendre la tête pour qu'elle tombât d'un seul coup, les autres lever les bras pour que la mort pût pénétrer de tous côtés dans leur poitrine, les autres enfin tenir les mains derrière le dos afin de n'opposer aucune résistance. Un jeune homme se détacha en disant « Je vais savoir ce qui vaut le mieux ». Il monta à une petite tourelle dont la fenêtre grillée donnait sur la cour du massacre et de là il étudia la mort. Et puis il revint en disant « Ceux qui meurent le plus vite sont ceux qui ont le bonheur d'être frappés à la poitrine ». En ce moment on entendit ces mots « Mon Dieu, je vais à vous », suivi d'un soupir. Un homme venait de tomber à terre et se débattait sur les dalles. C'était monsieur de Chanterenne, colonel de la garde constitutionnelle du roi. Il s'était frappé de 3 coups de couteau dans la poitrine. Les prisonniers héritèrent du couteau, mais ils se frappaient avec hésitation et un seul parvint à se tuer. Il y avait là 3 femmes, 2 jeunes filles effarées, se pressant aux côtés de 2 vieillards, une femme en deuil, calme, agenouillée, priant et souriant dans sa prière. Les 2 jeunes filles étaient mesdemoiselles de Cazotte et de Sombreuil, les 2 vieillards étaient leurs pères. La jeune femme en deuil, c'était Andrée. On appela monsieur de Montmorin. Monsieur de Montmorin, on se le rappelle, c'était l'ancien ministre qui avait délivré les passeports à l'aide desquels le roi avait essayé de fuir. Ce personnage, si impopulaire que déjà la veille, un jeune homme qui portait son nom avait manqué d'être tué à cause de ce nom. Monsieur de Montmorin n'était point venu écouter les exhortations des 2 prêtres. Il était resté dans sa chambre, furieux, désespéré, appelant ses ennemis, demandant des armes, ébranlant les barreaux de fer de sa prison et brisant une table de chêne dont les planches avaient 2 pouces d'épaisseur. Il fallut l'entraîner de force devant le tribunal. Il entra dans le guichet, pâle, l'œil enflammé, les poings levés. « À la force !» dit Maillard. L'ancien ministre prit le mot pour ce qu'il paraissait être et crut à un simple transfèrement. « Président, dit-il à Maillard, puisqu'il te plaît de t'appeler ainsi, j'espère que tu me feras conduire en voiture afin de m'épargner les insultes de tes assassins. »« Faites avancer la voiture pour monsieur le comte de Montmorin, dit Maillard avec une exquise politesse. Puis à monsieur de Montmorin, « Donnez-vous la peine de vous asseoir en attendant la voiture, monsieur le comte. » Le comte s'assit en grommelant. 5 minutes après, on annonça que la voiture attendait. Un comparse quelconque avait compris la part qu'il avait à jouer dans ce drame et il donnait la réplique. On ouvrit la porte fatale, celle qui donnait sur la mort, et monsieur de Montmorin sortit. Il n'avait pas fait 3 pas qu'il tombait, frappé de 20 coups de pique. Puis vinrent d'autres prisonniers, dont les noms inconnus sont restés ensevelis dans l'oubli. Au milieu de tous ces noms obscurs, un nom prononcé brilla comme une flamme, c'était celui de Jacques Cazotte, de Cazotte l'Illuminé, qui avait 10 ans avant la Révolution prédit à chacun le sort qui l'attendait, de Cazotte l'auteur du Diable amoureux, d'Olivier, des Mille et une fadaises, imagination folle, âme extatique, cœur ardent, qui avait embrassé avec fureur la cause de la contre-révolution et qui, dans des lettres adressées à son ami Poutot, employé à l'intendance de la liste civile, avait exprimé des opinions qu'à l'heure où nous sommes arrivés, on punissait de mort. Sa fille lui avait servi de secrétaire pour ses lettres et, son père arrêté, Élisabeth Cazotte était venue réclamer sa part de prison. Si l'opinion royaliste était permise à quelqu'un, c'était certes à ce vieillard de 75 ans, dont les pieds étaient enracinés dans la monarchie de Louis XIV et qui, pour bercer le sommeil au duc de Bourgogne, avait fait les 2 chansons devenues populaires de « Tout au beau milieu des Ardennes » et « Commère, il faut chauffer le lit ». Mais c'était là des raisons à donner à des philosophes et non aux massacreurs de l'abbaye, aussi Cazotte était-il condamné d'avance. En apercevant le beau vieillard aux cheveux blancs, aux yeux de flamme, à la tête inspirée, Gilbert se détacha de la muraille et fit un mouvement pour aller au-devant de lui. Maillard vit ce mouvement, Cazotte s'avançait, appuyé sur sa fille, mais en entrant par le guichet, celle-ci comprit qu'elle était devant des juges. Alors elle quitta son père et, les mains jointes, vint prier ce tribunal de sang avec de si douces paroles que les assesseurs de Maillard commencèrent à hésiter. La pauvre enfant vit que, sous ces rudes enveloppes, il y avait des cœurs, mais qu'il fallait descendre pour les trouver jusque dans les abîmes. Elle s'y jeta à tête baissée, avec la compassion pour guide. Ces hommes, qui ne savaient pas ce qu'étaient que des larmes, ces hommes pleurèrent. Maillard essuya du revers de sa main cet œil sec et dur qui, depuis 24 heures, sans s'être baissé une seule fois, avait contemplé le massacre. Il étendit le bras et, posant la main sur la tête de Cazotte, « Qu'on l'élargisse, dit-il. » La jeune fille ne savait que penser. « N'ayez pas peur, dit Gilbert, votre père est sauvé, mademoiselle. » Les 2 juges se levèrent et accompagnèrent Cazotte jusque dans la rue, de peur que quelque fatale erreur ne rendît à la mort la victime qu'on venait de lui enlever. Cazotte, pour cette fois du moins, Cazotte était sauvé. Les heures s'écoulèrent, on continua de massacrer. On avait apporté dans la cour des bancs pour les spectateurs. Les femmes et les enfants des meurtriers avaient droit d'assister au spectacle. D'ailleurs, acteurs de conscience, ce n'était point assez pour ces hommes d'être payés, ils voulaient encore être applaudis. Vers 5 heures du soir, on appela monsieur de Sombreuil. Celui-là, c'était, comme Cazotte, un royaliste bien connu, et qu'il était d'autant plus impossible de sauver qu'on se rappelait que, gouverneur des Invalides au 14 juillet, il avait tiré sur le peuple. Ses fils étaient à l'étranger, dans l'armée ennemie, l'un d'eux avait si bien fait au siège de Longwy qu'il avait été décoré par le roi de Prusse. Monsieur de Sombreuil parut, lui aussi, noble et résigné, portant haut sa tête à cheveux blancs qui retombaient en boucle jusque sur son uniforme, lui aussi appuyé sur sa fille. Cette fois, Maillard n'osa ordonner l'élargissement du prisonnier. Seulement, en faisant un effort sur lui-même, il dit « Innocent ou coupable, je crois qu'il serait indigne du peuple de tremper ses mains dans le sang de ce vieillard. » Mademoiselle de Sombreuil entendit cette noble parole qui pèsera son poids dans la balance divine. Elle prit son père et l'entraîna par la porte de vie en criant « Sauvé, sauvé !» Aucun jugement n'avait été prononcé, ni pour condamner, ni pour absoudre. 2 ou 3 des assassins passèrent leur tête par la porte du guichet pour demander ce qu'il fallait faire. Le tribunal resta muet. « Faites ce que vous voulez, » dit un seul membre. « Eh bien, crièrent les meurtriers, que la jeune fille boive à la santé de la nation. » Ce fut alors qu'un homme rouge de sang, aux manches retroussées, au visage féroce, présenta à Mademoiselle de Sombreuil un verre que les uns disent du sang, les autres disant simplement du vin. Mademoiselle de Sombreuil cria « Vive la nation !» trempa ses lèvres dans la liqueur quelle qu'elle fût, et Monsieur de Sombreuil fut sauvé. 2 heures s'écoulèrent encore. Puis la voix de Maillard, aussi impassible en évoquant les vivants que l'était celle de Minos en évoquant les morts, La voix du maillard prononça ces mots, la citoyenne André de Tavernet, comtesse de Charny. À ce nom, Gilbert sentit ses jambes lui faillir et le cœur lui manquer. Une vie, plus importante à ses yeux que sa propre vie, allait être débattue et jugée, condamnée ou sauvée. Citoyen, dit Maillard aux membres du tribunal terrible, celle qui va comparaître devant vous est une pauvre femme qui a été dévouée autrefois à l'Autrichienne, mais dont l'Autrichienne, ingrate comme une reine, a payé le dévouement par de l'ingratitude. Elle a tout perdu à cette amitié, sa fortune et son mari. Vous allez la voir entrer vêtue de noir, et ce deuil, à qui le doit-elle? À la prisonnière du temple. Citoyen, je vous demande l'avis de cette femme. » Les membres du tribunal firent un signe d'assentiment. Un seul dit, « Il faudra voir. » Alors, reprit Maillard, « Regardez. » La porte s'ouvrait en effet, et on apercevait dans les profondeurs du corridor une femme toute vêtue de noir, le front couvert d'un voile noir, qui s'avançait seule, sans soutien, d'un pas ferme. On eût dit une apparition de ce monde funèbre d'où, comme dit Hamlet, nul voyageur n'est revenu encore. À cette vue, ce furent les juges qui frissonnèrent. Elle arriva jusqu'à la table et leva son voile. Jamais plus incontestable mais plus pâle beauté n'apparut au regard des hommes. C'était une divinité de marbre. Tous les regards se fixèrent sur elle. Gilbert demeura haletant. Elle s'adressa à Maillard et d'une voix à la fois suave et ferme. « Citoyen, dit-elle, c'est vous qui êtes le président. » « Oui, citoyenne, répondit Maillard étonné, lui, l'interrogateur, d'être interrogé à son tour. « Je suis la comtesse de Charny, femme du comte de Charny, tuée dans l'infâme journée du 10 août, une aristocrate, une amie de la reine. J'ai mérité la mort et je viens la chercher. » Les juges poussèrent un cri de surprise. Gilbert pâlit et s'enfonça le plus qu'il lui fut possible dans l'angle du guichet, essayant d'échapper au regard d'André. Le citoyen, dit Maillard, qui vit l'épouvante de Gilbert, cette femme est folle. La mort de son mari lui a fait perdre la raison. Plaignons-la et veillons sur sa vie. La justice du peuple ne punit pas les insensés. Et il se leva et voulut lui poser la main sur la tête, comme il faisait pour ceux qu'il proclamait innocents. Mais André écarta la main de Maillard. J'ai toute ma raison, dit-elle. Et si vous avez à faire grâce à quelqu'un, faites cette grâce à quelqu'un qui la demande et qui la mérite, mais non pas à moi, qui ne la mérite pas et qui la refuse. » Maillard se retourna du côté de Gilbert et vit celui-ci, les mains jointes. « Cette femme est folle, répéta-t-il, qu'on l'élargisse !» Et il fit signe à un membre du tribunal de la pousser dehors par la porte de vie. « Innocente ! Cria l'homme, laissez passer !» On s'écarta devant André. Les sabres, les piques, les pistolets s'abaissèrent devant cette statue du deuil. Mais après avoir fait 10 pas, et tandis que penché à la fenêtre, Gilbert, à travers les barreaux, la regardait s'éloigner, elle s'arrêta. « Vive le roi » cria-t-elle. « Vive la reine ! Opprobre sur le 10 août !» Gilbert jeta un cri, s'élança dans la cour. Il avait vu briller la lame d'un sabre. Mais, rapide comme un éclair, la lame avait disparu dans la poitrine d'André. Il arriva à temps pour recevoir la pauvre femme dans ses bras. André tourna vers lui son regard éteint et le reconnut. « Je vous avais bien dit que je mourrais malgré vous, » murmura-t-elle. Puis, d'une voix à peine intelligible, « Aimez Sébastien pour nous deux, » dit-elle. Puis, plus faiblement encore, « Près de lui, n'est-ce pas, près de mon Olivier, près de mon époux pour l'éternité. » Et elle expira. Gilbert la prit dans ses bras et l'enleva de terre. 50 bras nus et rougis de sang le menacèrent à la fois, mais Maillard parut derrière lui, étendit la main au-dessus de sa tête et dit « Laissez passer le citoyen Gilbert qui emporte le cadavre d'une pauvre folle tuée par mégarde. » Chacun s'écarta et Gilbert, emportant le cadavre d'André, passa au milieu des massacreurs sans qu'un seul songeât à lui barrer le chemin, tant cette parole de Maillard était souveraine sur la multitude.